Bienvenue dans Langue de Prune, votre émission sur la langue et la société. Reportages, débats, interviews et vos chroniques sympathiques et éclectiques. D'ici et d'ailleurs, à qui la faute ? L'étymologie en folie. À Langue de Prune, on n'a pas la langue dans nos poches. Tous les derniers mardis du mois, de midi à 13h.
Langue de Prune revient en cette année 2023, et pour bien commencer l'année, on va parler de toponymie. Alors, petit topo, les toponymes, c'est des noms de lieux, de rues, de villes, de pays. Et la toponymie, c'est l'étude de ces noms de lieux, leur étymologie, leur signification, leur évolution. Aujourd'hui, pour ma part, je vais vous parler de Nantes, de ses rues et de ses quartiers. Louis vous parlera de la France, de l'histoire des noms de lieux et des gentilés. Les gentilés, c'est les noms des habitants et habitantes d'une ville ou d'un village. Et vous verrez, il y en a qui sont étonnants. Bonjour Louis.
Bonjour.
Axel nous parlera du monde. Comment est-ce qu'on parle du monde depuis la France ? Comment est-ce qu'on nomme les rues ailleurs ? Bonjour Axel.
Bonjour.
Et Morgane est à la technique aujourd'hui. Bonjour Morgane.
Bonjour.
Alors on va tout de suite commencer par l'histoire de France. Stéphane Bern n'était pas dispo, Laurent Deutsch non plus. Les boules, donc on a dû faire appel à Louis. Mais j'ai un peu peur qu'il ne montre pas un grand respect pour nos têtes couronnées. C'est ce qu'on va voir maintenant avec l'histoire de France par ses noms de lieux.
Si on parle des noms de lieux, du coup, ouais, en effet, soyons un peu chauvins et intéressons-nous à la question française. Bon, je voulais vous expliquer ce qu'était la toponymie, mais Asilis me vole mon travail aujourd'hui. Donc ce n'est pas grave et je vais enchaîner directement. Bon, évidemment, je ne vais pas faire un ensemble total du pays. D'abord, ça serait beaucoup trop long. Ensuite, ça impliquerait de s'intéresser au Pays Basque. Je ne vais pas m'y aventurer. Et enfin, parce que je suis un historien, pas un linguiste, donc ma compétence a ses limites, aussi incroyable que cela puisse paraître. Cela dit, je vous promets que mes compétences restent supérieures à celles de Bern et de Deutsch. Commençons donc par une partie de la toponymie historique de la région préférée des Français. Vous savez forcément de laquelle je veux parler, en choisir une autre serait un incident diplomatique sur nos terres. La Normandie, donc. Comme toujours, ces connaissances ne me sont pas innées, hein, je tiens à le préciser quand même. Aujourd'hui, j'utilise principalement les travaux d'historiens, qui sont ici Laurent Ridel et François de Beaurepaire. La grande particularité de la toponymie normande, c'est d'avoir la plus grande concentration de communes dont le nom se termine par « ville ». En France, du coup. Par exemple, Deauville, Rogerville, oui, j'ai voulu mettre Rogerville parce que je trouve que c'est très drôle comme nom de ville, etc. C'est plus de 20% des communes normandes qui ont ce suffixe. Deux périodes principales sont retraçables par rapport à ce suffixe. D'abord, la présence romaine, déformée en gallo-romain, puis en roman. En effet, le suffixe « ville » vient de « villa », mot latin qui désigne le domaine rural. Ainsi, ce terme indique tout d'abord la simple occupation humaine de l'espace. Si bien que lorsqu'est attaché à un nom, ce suffixe « ville » va donc désigner le lieu de résidence, le domaine d'une personne. C'est le cas de ma ville d'enfance, Bazanville, qui se nommait à sa fondation en 875 Bassonie-Villa, la ville de Basson. Ou le domaine de Basson, la maison de Basson, comme vous voulez. Ces formations en ville, on les retrouve en Normandie sur des fondations qui s'étendent entre le 8e et le 12e siècle. Et c'est au sein de cette période que la colonisation viking de la Normandie a débuté. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, les raids vikings ont touché la France dès la fin du 8e siècle. C'est en 911 que le roi Charles le Simple a autorisé le chef viking Rollon à s'installer dans le comté de Rouen en échange de sa vassalité, de sa conversion et de sa promesse de protéger le royaume contre les raids vikings. Le comté de Rouen correspond aujourd'hui à la Haute-Normandie, plus ou moins. C'est là où le viking Rollon a pu s'installer. C'est à partir de cet échange de bons procédés que la colonisation viking de la Normandie a réellement commencé. Ce qui signifie un fort changement dans la toponymie normande. Or, le suffixe « ville » a survécu ce changement et a même connu un fort accroissement durant la colonisation viking. Ça s'explique assez facilement, en fait. Ceux qui s'installent sont vikings, mais ceux qui savent écrire sont principalement les clercs, qui sont du coup déjà présents sur place. Parce qu'en effet, les vikings vont arriver, ils vont pas forcément savoir écrire normand, franc ou ce que vous voulez. Du coup, l'écriture latine « villa », d'où vient le suffixe « ville » comme je vous l'ai déjà dit, bah, ça leur convient pas mal, donc ils continuent. Et donc, c'est clair, ils vont souvent nommer les nouvelles fondations en nom du gars scandinave qui s'installe, plus ville. De plus, on constate ces fondations en très grande partie sur le littoral normand et le long de la Seine, les voies d'eau, donc, par lesquelles les vikings sont arrivés. Et c'est ainsi que vous avez, à travers sa toponymie, une partie de l'histoire normande. Toutefois, n'allez pas non plus penser que les noms en ville sont exclusifs aux vikings, ni que ce sont leurs seules traces toponymiques. Des villes comme Oppegard ou Ulbert Cochrel en sont d'autres exemples. Un autre exemple assez simple d'histoire de la France à travers sa toponymie, c'est en allant vers l'Est, à la frontière avec nos amis allemands. C'est bien de l'Alsace-Lorraine dont il est question. Je ne vous apprends rien si ces deux régions avaient été perdues au profit de l'Allemagne en 1870, puis récupérées à l'issue de la Première Guerre mondiale. Mais c'est d'une période plus lointaine dont je vais vous parler, la période avant même que l'Alsace et la Lorraine ne furent françaises. On ne va pas faire un cours d'histoire complet, donc on va simplifier, on va juste considérer que l'Alsace a été rattachée à la France en 1648 et la Lorraine en 1766. Avant ça, et c'est vraiment simplifié, ces deux territoires faisaient partie du Saint-Empire romain germanique, ou Serge, comme j'aime l'appeler, C-E-R-G, ça fait Serge, voilà. C'est entre autres pour ça que l'Alsace-Lorraine a un autre nom en allemand, Elsass-Lothringen. Et cette cohabitation de noms allemands-français, c'est assez commun dans l'Est, spécialement dans les départements de Moselle et du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Un peu comme en Bretagne, avec les noms de villes en breton ajoutés sous les panneaux, hein, vous le voyez tous les jours. Donc un des exemples de ces villes qui ont également un nom allemand, c'est Thionville, une ville que tout le monde connaît bien évidemment, qui se nomme Diedenhofen pour les Allemands. L'inverse est également vrai. La France n'a pas toujours été l'hexagone que nous connaissons aujourd'hui. Par exemple, l'Empire de Charlemagne, quand la France se nommait encore le Royaume des Francs, ou plus exactement Francie, pour être plus proche de la vraie locution de l'époque, s'étendait sur quasi toute l'Europe continentale de l'Ouest, hors Hispanie. Et sa capitale, c'était Aix-la-Chapelle. Vous avez sûrement déjà vu ça en cours d'histoire. Mais chez nos amis allemands, Aix-la-Chapelle, c'est Haaken. Bon, j'avoue, c'était aussi l'occasion de faire Georges parle allemand et de causer une syncope chez tous les germanisants. Bon, du coup, j'ai parlé de la Bretagne. Il y a bien évidemment aussi le cas breton. Mais je ne vais pas vous le décrire, tout ce phénomène. Hein. Vous le connaissez bien assez bien au quotidien. Nantes, c'est Naonède, Saint-Nazaire, c'est Sainte-Nazaire, Guérande, c'est Gwenran, etc., etc., etc. Certaines fondations postérieures au rattachement de la Bretagne à la France suite à l'union perpétuelle de 1532 ont aussi bénéficié de noms bretons. La toponymie de la Bretagne historique est donc un autre témoin de l'histoire de la France. Oui, je précise historique parce que je ne veux pas trop me faire d'ennemis non plus. Déjà que je suis normand, c'est-à-dire ceux qui possèdent légitimement le Mont-Saint-Michel, il ne faudrait pas trop en rajouter.
Non. Si. Merci Louis. Ça me fait penser, il y a des points communs quand même entre la Bretagne et la Normandie, parce que j'ai vu dans l'Orne une commune qui s'appelait Mauvaisville, et chez nous on a Malville, donc peut-être qu'enfin un terrain d'entente. Et alors maintenant, dans Étymologie en folie, on va répondre à la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire pourquoi les quartiers de Nantes s'appellent comme ils s'appellent.
L'étymologie en folie.
On s'interroge peu sur les noms des quartiers de Nantes, parce que ça fait partie du paysage. Mais quand on s'y intéresse, on peut avoir quelques surprises. Alors déjà, le quartier de Malakoff. Moi, le nom m'a toujours trop intriguée. Je trouve les sonorités hyper étranges, il y a deux F à la fin, donc je me suis demandé d'où est-ce que ça vient. Surtout qu'il n'y a pas qu'à Nantes. Il y a une ville aussi en région parisienne, par exemple, qui s'appelle Malakoff. Alors en fait, si ça paraît un peu bizarre comme nom, c'est parce que c'est un nom russe à la base. En fait, c'est une référence à la bataille de Malakoff, en 1855, qui était une bataille de la guerre de Crimée, qu'opposaient les troupes russes aux troupes françaises et britanniques. Et c'est la Russie qui a perdu. Et le nom de cette bataille vient d'une colline, qui était dans le coin, près du port militaire de Sébastopol. Donc ça y est, mystère résolu. Alors maintenant, descendons un peu plus au sud, sur l'île de Nantes. Il y a le grand boulevard de la Prairie au Duc. Alors auparavant, c'était carrément une île à part entière. Et vu toutes les constructions, on a du mal à imaginer qu'il y avait des prairies, et pourtant c'était le cas. Et ces prairies, elles appartenaient en quelque sorte au duc de Bretagne. En effet, les sables et les prairies de toutes les îles sur la Loire étaient sa propriété. Tranquille le duc. Et un peu plus à l'ouest, il y a Chantenay. Alors Chantenay, c'est un nom aussi assez étonnant, et son étymologie, elle remonte à loin, ça vient de Cantenos. Cantenos, c'était un riche propriétaire terrien de l'époque gallo-romaine. Et le village, en fait, s'est construit autour de son domaine. À la base, Chantenay, c'est une commune. On l'appelait Chantenay-sur-Loire ou Chantenay-lès-Nantes. Et puis, ça s'est réduit à Chantenay quand ça a été intégré à Nantes et que c'est devenu le quartier de Chantenay. Je suis désolée pour cette blague, mais j'étais obligée de la faire. Et on me regarde un peu mal, là. Bon, je vais redevenir plus sérieuse. Et j'ai parlé des noms de lieux en hier. Il y a plein de quartiers à Nantes qui finissent comme ça. Les Raudières, la Tortière. En fait, tous ces noms-là, ça veut dire que c'est les noms du domaine de Bidule Chouette. Par exemple, Moronnière, c'était le domaine de Moron. Alors après, on ne sait pas exactement qui était ce Moron. Il y a une hypothèse comme quoi ça pourrait venir de Mohon, qui veut dire asocial. Donc peut-être que c'était le domaine d'un gars qui sortait pas trop de chez lui. Et vient le moment pour que je parle de Nantes-Nord et de deux noms de quartiers à Nantes-Nord qui montrent le passé rural de la ville et du quartier. Alors d'abord, il y a Bout des Pavés, qui se trouve au sud-ouest de Nantes-Nord. Et c'était en fait la limite de la ville. Après, il n'y avait plus de pavés, quoi. Il y a aussi Bout des Landes, qui là, lui, est plus loin. En fait, ça veut dire que c'était le bout des champs. Après, il n'y a plus rien. Enfin, il y a Orvault, quoi. C'était le bout du bout. Et ça paraît assez logique parce que le quartier s'est surtout urbanisé entre les années 50 et les années 70. Avant, il était beaucoup plus rural. Et pour finir, la Beaujoire, la Grande Beaujoire, qui vient du mot bauge, la tanière du sanglier. Et le mot bauge, par extension, désigne des terres boueuses, marécageuses. Alors je sais que c'est un peu difficile à imaginer maintenant parce que ce lieu est principalement occupé par le stade de foot. Nous sommes ici pour supporter les Canaries de la Beaujoire. Allez, allez, allez Nantes jouer. Tous avec vous les jaunes et verts.
Moi, je crois qu'il n'y a pas trop de fans de foot parce qu'il n'y a pas un engouement particulier dans le studio. Malheureusement, il y a beaucoup de noms de quartiers dont je n'ai pas trouvé l'origine. Peut-être que c'est bien de garder un peu de mystère pour que chacun donne son hypothèse. Alors, il y a le quartier de la Motte Rouge qui tient son nom du pont de la Motte Rouge. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je pensais que c'est parce qu'il y avait une petite colline de terre rouge. Ben, en fait, pas du tout. Ça vient du nom d'un général. Et ce n'est pas très étonnant parce que le pont respire vraiment l'ordre et l'autorité. D'ailleurs, si on le traverse, on arrive au commissariat. On va rester sur un pont avec la chanson populaire Le Pont de Nantes, ici interprétée par Guy Béard.
Sur le pont de Nantes, un bal y est donné. Sur le pont de Nantes, un bal y est donné. La belle Hélène voudrait bien y aller. La belle Hélène voudrait bien y aller. Ma chère mère, m'y laisserez-vous aller? Ma chère mère, m'y laisserez-vous aller? Non, non, ma fille, vous n'irez point danser. Non, non, ma fille, vous n'irez point danser. Monte à sa chambre et se met à pleurer. Monte à sa chambre et se met à pleurer. Son frère arrive dans un bateau doré. Son frère arrive dans un bateau doré. Qu'as-tu ma sœur? Qu'as-tu donc à pleurer? Qu'as-tu ma sœur? Qu'as-tu donc à pleurer? Hélas mon frère, je n'irai point danser. Hélas mon frère, je n'irai point danser. Aussi ma sœur, moi je t'y conduirai. Aussi ma sœur, moi je t'y conduirai. Ta robe blanche et ta ceinture dorée, prends ta robe blanche et ta ceinture dorée. Elle fit trois tours le pont
elle fit trois tours, le pont s'est défoncé. La belle Hélène dans la Loire est tombée, la belle Hélène dans la Loire est tombée. Hélas mon frère, me laisseras-tu noyer, hélas mon frère, me laisseras-tu noyer. Non, non ma sœur, je vais te retirer, non, non ma sœur, je vais te retirer. Dans l'eau se jette, et les voilà noyés, dans l'eau se jette, et les voilà noyés. Les cloches se mirent à sonner, toutes les cloches se mirent à sonner. La mer demande, qu'a-t-on à t'en sonner? La mer demande, qu'a-t-on à t'en sonner? C'est pour Hélène et votre fils aîné, c'est pour Hélène et votre fils aîné. Voilà le sort des enfants obstinés, voilà le sort des enfants obstinés.
Langue de prune.
C'était le pont de Nantes de Guy Béard. Il y a plusieurs versions de cette chanson et il y en a qui ne se trouvent pas à Nantes, notamment dans le nord de la France. Donc nous aussi, on va s'éloigner un peu et parcourir le monde avec Axel, qui va nous parler de comment est-ce qu'en français, on parle des villes étrangères.
Vous le savez, les noms qu'on utilise en fait, pour désigner des lieux en français correspondent souvent pas en fait, à ce qui est utilisé par les habitants. C'est ce qu'on appelle un exonyme. Et l'exemple en fait d'exonyme le plus courant, c'est ceux qu'on utilise pour parler des noms de villes. On va commencer, pas trop s'éloigner, on va commencer par ce qui est proche de nous géographiquement, mais aussi linguistiquement. On va vous parler des villes européennes. En fait, la plupart des villes européennes, elles ont un nom d'origine latine. Et dans ces cas-là, le nom de la ville a évolué dans notre langue en suivant les mêmes règles que les autres mots latins, c'est-à-dire en passant du latin à l'ancien français, puis après le français moderne, et en suivant exactement les mêmes règles linguistiques. Et c'est ce qui s'est produit de la même façon dans les autres langues latines. C'est pour ça que, par exemple, si on prend une ville comme Cologne, ça c'est le nom français, en latin, son nom, alors accrochez-vous, c'était Colonia Claudia Ara Agrippinensum. Je ne sais pas pourquoi celle-là, c'était aussi long. En allemand, c'est Köln. Et en italien, c'est Colonia. C'est donc le mot latin qui a évolué. Bon, en italien, c'est similaire, mais voilà. Mais on a aussi, par exemple, l'exemple de Mayence, qui s'appelle Mogontiacum en latin. Et donc, c'est Mainz en allemand. Je ne parle pas allemand, donc ma prononciation n'est pas incroyable. Et en italien, c'est Magonza. Donc, c'est vraiment différent de ce qu'on a en français. Pareil pour, par exemple, Vienne, Vindobona en latin, Vienne en allemand, et Vienna en italien. C'est assez intéressant de voir, en fait, que ce changement-là... Donc là, j'ai pris l'exemple de l'italien, mais c'est aussi ce qui s'est produit en espagnol et en roumain, dans toutes les langues, en fait, latines. Il y a quelques fois où les choses sont passées de manière plus complexe. Par exemple, la ville de Zadar, en Croatie. Le nom en latin, c'était Jadera. En vieux français, c'était Jadresse, du coup. Mais en fait, l'utilisation de ce mot-là a été perdue et tombée en désuétude. Et on a commencé à utiliser en France le nom italien, Zara. Et c'est le nom qu'ils utilisent toujours en Italie. Mais nous, en France, maintenant, on va préférer l'utilisation du nom Zadar, qui est l'utilisation locale et qui est vraiment la plus commune aujourd'hui en France. De manière le plus large dans le monde. Le changement de nom de ville, c'est principalement lié à des questions de phonologie. L'exemple le plus connu, c'est les villes chinoises, je pense. Et tout le monde le sait à peu près maintenant que, par exemple, la ville qu'on a appelée pendant très longtemps Pékin en français, en mandarin, son nom, c'est Beijing. Et c'est le même fonctionnement, par exemple, pour Nankin, en mandarin, c'est Nanjing. Et l'écart phonétique entre les deux noms de ville nous paraît assez important, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des noms français qui ont été créés, donnés il y a environ 4 siècles. Et en fait, la prononciation mandarine du nom de ces villes a évolué. C'était différent à l'époque. C'était Beijing, Nanking, d'où le cas qu'on a gardé. Donc, en fait, on n'est pas si complètement à côté de la plaque que ça. On a ici des exemples en fait, d'adaptation phonologique directe. On comprend, les Français, ils ont entendu les Chinois parler de leur ville, ils ont essayé de faire comme ils ont pu. Mais on a aussi des intermédiaires qui souvent en fait, rajoutaient encore plus de distance entre les noms et les exonymes. L'exemple le plus frappant, c'est Canton, qui est adapté en fait, du portugais Cantão, qui vient du cantonais, donc Guangzhou. Donc forcément, il y a un intermédiaire, donc ça s'éloigne encore plus du mot original. Je fais un petit rappel pour ceux qui n'ont pas trop suivi en cours d'histoire. Les Portugais, c'était les premiers Européens à voyager dans la région et surtout à y installer un comptoir. Et donc c'est pour ça que c'est eux qui nous ont dit comment ça s'appelait la ville. Parfois même, certaines adaptations de noms sont presque à contresens. Par exemple, si je vous parle de la ville de Saint-Domingue. En fait, le nom espagnol de la ville, c'est Santo Domingo. Santo Domingo, Domingo, c'est le nom de Saint-Dominique. Donc, ça, pas du tout Domingue. Et d'ailleurs, Saint-Domingue, vous le savez, c'est la capitale de quel pays ?
La République dominicaine.
Oui, oh c'est ça. Bravo. C'est ça qui est assez fou, en fait, quand on se penche, c'est que on n'a pas traduit le nom de la capitale correctement, mais on utilise quand même le bon nom de pays. Un autre exemple, d'ailleurs, de ça, ça va être... Alors là, du coup, je m'éloigne un peu, mais pour une région, la Bohème. La Bohème, nous, on appelle ça comme ça. Les Tchèques, eux, ils l'appellent... Alors là, encore une fois, ma prononciation en tchèque. Tchéri. Tchéri. Quelque chose comme ça. Et en fait, c'est depuis ce mot-là qu'on a, nous, notre mot, tchèque, qu'on utilise pour désigner le peuple et la culture. Bohème, c'était pour désigner un peuple qui vivait à l'époque là-bas, mais plus du tout. Et donc, en fait, c'est assez fou de se dire qu'on utilise leur mot pour désigner le peuple, mais on n'a pas gardé le mot pour la région, par contre. Après, ces choix d'utilisation de mots... principalement à la fin du XXe siècle, XXIe siècle, il y a eu beaucoup de mouvements pour essayer d'utiliser au maximum les mots utilisés par les habitants, les autochtones. Et parce qu'en fait, aussi souvent, ça peut être un peu chargé d'histoire et il peut y avoir quelque chose derrière. Par exemple, pour prendre quelque chose d'assez proche, la Turquie. Pendant très longtemps, en Europe, on utilisait les mots, les noms d'origine grecque pour les villes. Et en fait, parce que souvent, c'est des noms qui sont liés à notre culture judéo-chrétienne et en plus, qui sont proches de nous linguistiquement, plus faciles à appréhender. Mais du coup, c'est pas forcément anodin de rejeter les appellations actuelles utilisées par les Turcs en faveur de noms qui nous paraissent plus familiers et plus familiers historiquement, étymologiquement. Alors, l'exemple hyper connu, bien sûr, c'est Constantinople et Istanbul. Mais il y a aussi, par exemple, Antioche, la ville qu'on appelle Antioche, qui s'appelle Antakya, la ville de Smyrne, qui s'appelle Izmir, en turc, et Nicomédie, qui est vraiment un nom qui ne fait pas du tout turc, qui s'appelle Izmit. Donc, je vous ai donné quelques exemples, mais je voulais voir dans l'autre sens. J'ai deux petites questions sur comment est-ce que les étrangers appellent des villes françaises ? Par exemple, il y a une ville française que les étrangers appellent par un nom complètement différent. Et en fait, la plupart des langues européennes utilisent un nom différent de celui qu'on utilise. Est-ce que vous avez une idée ?
Nantes ?
Non. Non, non.
Marseille. Lyon.
C'est une ville du sud ou du nord déjà ?
Du sud.
Nice.
Oui, ouais. Bravo. Oh. T'as dit ça un peu au pif.
Oui.
En fait, parce que pendant très longtemps, Nice était appelé en fait, par le mot italien « Nissa ». Enfin, le nom italien, Nissa. Nous, on a changé le nom, on a mis ça en Nice. Mais en fait, la plupart des pays du monde et des langues utilisent toujours l'italien, Nissa. D'ailleurs, toujours en italien. Pendant très longtemps, il y a une ville française qu'ils appelaient Argentina. Est-ce que vous avez une idée de quelle ville ça pourrait être ?
Argentan en Normandie.
Et non. Non, c'est un peu le piège.
Je sens que ça va être n'importe quoi.
Honnêtement, oui.
Tu peux nous dire où est-ce que c'est à peu près ?
Aix-la-Chapelle.
C'est une région dont on a déjà parlé.
Donc c'est en Normandie ?
Non, une autre région dont on a parlé.
En Alsace-Lorraine ?
Oui.
Argentine.
Metz ?
Nancy.
Nancy.
Strasbourg.
Oui. Bravo, Asilis, 2 sur 2. Alors oui, Strasbourg, parce que en
pour
fait, le nom latin, enfin un des noms latins de Strasbourg, c'était Argento Ratum. Et du coup, c'est ça qui est resté. Et même si je n'ai pas vraiment eu le temps de parler des pays, y a un pays en particulier où le changement du nom en fait, est mis sur la table. Et d'ailleurs, il y a eu en 2022 une pétition pour que le nom du pays soit changé. Elle est toujours en cours, je pense. C'est la Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous connaissez le nom de la Nouvelle-Zélande maori et qui est en fait celui qui est le principalement utilisé par les Néo-Zélandais maintenant.
Non. Non,
il n'est pas officiellement reconnu comme le nom du pays, mais ils l'utilisent tous.
Bah, si tu nous le dis, ça nous dira quelque chose. Mais...
Je pense pas. Bah, c'était juste pour savoir, genre, petite question culture.
Oui, bah, on est nuls,
c'est Aotearoa.
Ah non.
Oui.
Et ça veut dire pays du long nuage blanc, parce qu'en fait, le découvreur mythique maori aurait vu au loin un grand nuage blanc et c'est comme ça qu'il aurait su en fait qu'il y avait une terre pour aller vivre. Voilà.
Merci beaucoup Axel. Gentil comme il est, Louis va nous parler des gentilés et puis il va aussi rire à ma blague, j'espère.
À qui la faute ?
Donc je vous ai parlé plutôt de la toponymie des villes de France. C'est bien beau de connaître les noms de nos villes et leurs histoires, mais qu'en est-il des noms de leurs habitants ? Il y a un thème pour désigner ces noms d'habitants d'une ville. Et encore une fois, Asilis a volé mon travail dans l'introduction, c'est le gentilé. En général, un gentilé, c'est assez intuitif. Les Nantais pour Nantes, les Lillois pour Lille. Je m'entends à peine là. Les Guérandais pour Guérande, les formes varient, mais on va rarement se tromper. Et si on se trompe, en général, on n'est jamais loin du but. D'ailleurs, sachez qu'un gentilé, c'est la dénomination des habitants d'un lieu, donc pas uniquement d'une ville. Français, par exemple, c'est un gentilé. Enfin bon, j'ai dit que c'était facile, les gentilés. Ben, c'est vrai, ça. C'est quand même pas compliqué. Alors, je propose un jeu très facile. Vous allez devoir deviner les gentilés des villes et que je vais vous citer. Ça va devenir plus dur au fur et à mesure, mais je vous promets rien de sorcier. Un enfant de 5 ans pourrait deviner. Allez, on y va, hein, sans pression. Hein. Alors, le premier, Paris. Comment on appelle les habitants de Paris ?
Parisiens.
Ah ouais,
parisienne.
Trop fort. Wow. Et parisienne, exactement. Pour Saint-Nazaire.
Les Nazariens.
Voilà, ça c'est pas dur. Saint-Malo.
Malouins, voilà. Et les Malouines.
C'est ça. Ouais. Pour Angoulême.
Ah, les Anges.
Non, oh. C'est pas les Anges.
Non, mais attends, j'avais pas fini de réagir.
Les Angoulemois.
Les Angoulemois.
Je vais pas relever. Non, ce sont les Angoumoisins. Vous pouvez l'entendre au moins une fois dans votre, au moins une fois par an, quand il y a le festival de la BD Angoulême.
C'est vrai,
à la télé, on vous parle des Angoumoisins. Les habitants de Bayeux, vous êtes censés le savoir, et étant donné que j'y suis né.
Les Bayernes.
C'est une insulte.
Les Bayeuxais.
Eh ben non, c'est les Bayeucas.
Oh,
ça tombe sous le sens.
Ça fait un peu maracas.
Ouais.
En tout cas, vous voyez, c'est pas si dur que ça. Allez, on continue avec quelques derniers, toujours aussi simples. Bourg-la-Reine.
Quoi, Bourg-la-Reine ?
Oui, Bourg-la-Reine, c'est une ville. Bourg-la-Reine. Bourg-la-Reine.
Les
Non, mais Bourg, B-O-U-R-G.
Les bourgeois-rennais.
Bon, vous êtes pas très fort, c'est les Régina-Burgiens, je trouve que c'est assez facile à savoir quand même. Métabief.
C'est une ville, ça ?
Oui, c'est une ville.
Tu l'as inventé ?
Métabiéfin.
Non.
Métabiévois.
Non. Franchement, vous pourriez faire un effort.
Métabiévien.
Franchement, vous faites aucun effort, c'est les Chagris.
Mais... Oh, c'est trop mignon.
J'avoue.
Quoi ? Ça sort surtout la nuit.
Chat-gris.
Non, mais... Ah oui, vraiment ?
C'est une vraie ville, là.
Oui, c'est une vraie ville, Métabiéf. Je fais pas une blague. Alors, par contre, j'ai pas regardé où est-ce que c'est.
Je pense qu'on va demander aux auditeurs quand même d'aller vérifier si c'est un vrai.
Non, mais c'est une vraie ville. Non, attendez, j'en ai encore deux, là, pour vous. Roche-Jean.
Jean comme Jean, le prénom ?
Oui, Jean comme le prénom, mais c'est en un seul mot. Roche comme la roche, Jean comme le prénom, et c'est tout attaché.
Les Roche-Jeannetais,
Pierre Jeannot.
Ça aurait peut-être pu être Pierre et le Lapin aussi, je sais pas, mais... Non, c'est les brigands.
Oh,
c'est trop drôle, hein?
Oui.
Franchement, allez, un petit dernier pour la route. Verso.
Les versos comme le signe astrologique?
Non,
verso. Non, verso, pas verso. Oh. Et c'est pas versatile.
Les versins?
Hein? Les versins, non.
Versant?
Non. Non, les bédouins.
Okay. Mais c'est pas possible.
Ah si, si, je vous jure, tout est vrai. Tous ceux que je vous ai, les quatre derniers que je vous ai donnés, tout est vrai.
T'es allé dans les villages en question pour vérifier si on les avait.
Je sais pas, t'es allé voir, t'es allé leur demander. Non, 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 c'est vrai de vrai. Alors c'est lié à l'histoire de ces lieux. C'est souvent lié, comme pour les noms de famille, pardon, à des petites anecdotes, hein, comme quand certains s'appellent Courroucé ou Le Marchand. Hein. Ça semble venir de nulle part, mais il y a évidemment une histoire que cette fois-ci je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi on appelle les habitants de Verso les Bédouins.
Merci Louis, ça me donne vraiment envie d'aller dans tous ces villages. Camini maintenant va nous décrire celui qu'il a vu naître dans ce succès du Hit Machine, Marly Gaumont.
Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Ces petits patelins paumés, pour qui personne n'a jamais rappé, même pas un flow. Ces petits patelins paumés que même la France, elle sait pas qui sont là chez elle. Les petits patelins paumés que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pernaut. Je m'appelle Camini, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle Marly Gaumont. Alors qu'on monte sur le beat 1 qui fait... À Marly Gaumont, y'a pas de béton, 65 ans la moyenne d'âge dans les environs, un terrain de tennis... Un terrain de basket. Trois jeunes dans le village, donc pour jouer c'est pas chouette. Viens d'un village paumé dans l'Aisne, en Picardie, facilement 95% de vaches, 5% d'habitants. Et parmi eux, une seule famille de noirs. Fallait que ce soit la mienne. Putain, vrai cauchemar, j'ai dit à mon père. On aurait pu laisser installer à Moscou, non? On aurait pas trop été dépaysé par la température et ni par les gens. Il m'a répondu, hé, hey, comment ça? Mais tu te moques de moi, toi, mais ça va aller, hein. Tu parles, j'avais 6 ans, premier jour d'école. Et ben j'ai chialé à cause des petits cons là-bas. Tu sais comment ils m'appelaient? Hé, hey, bon boulot, hé, hey, pépito, hé, hey, bon boulot, hé, hey, loin, hein. Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pas durs. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pas durs. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. À Marly Gaumont, les gens ils parlent pas verlan. Ils parlent gros comme vous, des mafieux bidons. Des fois ils t'aiment bien. J'aime pas les arabes, hein. Aime pas les noirs, mais toi je t'aime bien, même si t'es noir. De temps en temps il faut de la politique aussi, avec plein de philosophie. De toute façon moi je dis, tout est pour rien. Dans les petits patelins, faut pas être cardiaque, ah ouais sinon t'es mal. Faut traverser ma village en tous 50 bandes pour trouver un hôpital, que dalle. Là-bas y'a rien, c'est des pâtures, des fois y'a un match de foot le dimanche. Le stade c'est une pâture, sur lesquelles les lignes sont tracées, les buts sont montés et les filets. Et dans l'équipe du coin y'a toujours un mec qui se fait surnommer Kéké. Allez Kéké, allez Kéké. Si c'est pas Kéké, dans l'équipe d'en face y'a toujours un mec qui s'appelle Biquet.
Allez Biquet, allez Biquet.
Une journée type. Dans le coin, le facteur, un tracteur, et un rien. Enfin, si une vache de temps en temps. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Et à l'école maternelle, j'étais le seul black. Et dans le putain de collège, j'étais le seul black. Et dans le putain de lycée, j'étais le seul black. De la maternelle au lycée, toujours autant de claques qui se perdaient dans la nature ou dans la raison. Papa me disait toujours c'est bien, faut pas se battre un piston. Mais moi je voulais me révolter, mais là-bas y'a rien à cramer. Y'a qu'un bus pour le lycée, c'est le même pour le centre aéré. Pas la peine d'aller brûler, et le voiture du voisin. Des gens ils en ont peu, ils ont tous des mobilettes. En plus le boulangerie, elle est à 8 km. 8 km, tous les matins, à mobilette. Il est parti où Vincent? Il est parti en catimini. Ah ben non, bah, c'est nous hein. Parti à mobilette hein. Parti à mobilette hein. Le métro des petits patelins, c'est le but 1. Le but 1 qui fait dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Les petits patelins paumés aussi à la misère, alors rien à faire là tout est vert. Ces petits patelins paumés que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pernaut. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon.
y a pas de Paname, mais le Marly commence. Y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Yo.
Retrouvez Langue de Prune en podcast sur prune.net.
Merci au Marlysien Camini pour ce super morceau. Vous êtes dans Langue de Prune sur Prune 92 FM. Et maintenant, attaquons-nous au nom des rues nantaises. À Nantes, comme dans beaucoup d'autres villes, il y a une bonne partie des noms de rues qui sont des patronymes, des noms de personnes. Alors bizarrement, il n'y a pas la rue Courroucée ou la rue Chartier. Donc je suis désolée Axel, mais je pense qu'il faut être un peu connu. Parce que donner le nom d'une personne à une rue, c'est en faire une personne reconnue, lui donner une valeur dans la société, lui rendre hommage. Donc certains noms de rue posent problème, parce qu'ils mettent à l'honneur des individus un peu problématiques. Alors il y a différentes sortes de personnages, il y a pas mal de noms de scientifiques à Nantes, comme la rue Copernic, ou d'artistes, comme les rues qui portent le nom des écrivains Alfred de Musset ou Charles Baudelaire. Il y a aussi pas mal de personnalités politiques, notamment des maires. C'est le cas du boulevard Henri Orion. Henri Orion, c'était un maire sous Vichy. On voit bien le côté problématique, là. Et puis, ce qu'on nomme les rues en fonction des personnes reconnues par la société, c'est souvent des individus dominants, donc beaucoup de mecs. Est-ce que vous avez en tête, là, des noms de rues à Nantes qui portent le nom d'une femme ?
Il doit y avoir une rue Marie Curie, quelque part.
Simone Veil aussi, non ?
Oui. Il y a peut-être une rue Louise Michel.
Ok, là, je n'ai pas les noms, hein. C'était pour voir vos connaissances.
Mais en vrai, je sais pas où elle est, la rue Marie Curie. Je me doute qu'elle existe, mais...
Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rues qui portent des noms de femmes. Il n'y en a que 223 sur les 3200 rues qu'il y a à Nantes. Ça représente 14% des noms de rues qui ont un nom de personne. Et puis, on voit aussi des différences par rapport, entre les noms de rues masculins et les noms de rues féminins par rapport au type de voie. Les noms de rues qui ont un nom de femme, c'est des rues qui sont plutôt... c'est des petites voies, des impasses, des sentiers. Pour les hommes, c'est plutôt des grandes voies, des boulevards, des routes. Et la longueur des voies, elle est proportionnelle en fait à l'importance qu'on accorde aux différents genres dans la société. La longueur moyenne est de 154 mètres pour les femmes contre 250 mètres pour les hommes. Alors la mairie de Nantes essaye un petit peu de remédier à ça. En 2015, il y a le plan d'action égalité femmes-hommes qui a commencé à être mis en place, qui prône notamment la féminisation des noms d'équipements et de rues. Donc depuis 2016, 65% des nouveaux odonymes, les odonymes c'est les noms des voies, les rues, les impasses, etc. 65% sont un nom de personnes féminines. Donc ça représente 109 voies. C'est autant de voies qui prennent le nom d'une femme que depuis le début du 19e siècle. Donc c'est pas mal, mais c'est pas du tout suffisant. Déjà, on se demande pourquoi c'est seulement 65% des noms de rues qui portent un nom de personne. Vu tout le retard qu'il y a à rattraper, ça pourrait être 100% franchement. Et puis, bah, c'est que les nouvelles rues, que les nouvelles voies. Donc, c'est surtout dans les nouveaux quartiers et ça a un impact limité parce qu'on ne construit pas des nouvelles voies tous les jours. La solution, si on voulait vraiment rattraper le retard, ce serait de renommer des rues déjà existantes. Mais là, ça a l'air de bloquer. Aussi, les noms de rues féminins n'ont pas le même profil que les noms de rues masculins. Ce sont des personnalités plus récentes. 68% des femmes qui ont donné leur nom à une rue nantaise vivaient au XXe siècle parce qu'elles sont devenues à ce moment-là plus visibles dans l'histoire. 26% sont des figures féministes et 20% ont été la première femme à réaliser quelque chose. Il y en a aussi une part importante qui sont reconnues par leur travail dans le care, donc dans le soin, dans les activités traditionnellement associées aux femmes. Alors les femmes sont invisibilisées à Nantes car peu présentes dans les noms de rue et certaines catégories de femmes le sont encore plus. C'est notamment le cas des femmes de classe populaire qui sont seulement une dizaine dans les noms de rue et des femmes racisées qui sont seulement 16. On note par exemple qu'il y a la botaniste Janaki Amal ou Magdelaine, qui est une esclave qui a été accusée d'avoir empoisonné ses maîtres. Et en fait, c'est des élèves qui ont étudié son histoire et qui ont demandé à ce que la ville de Nantes nomme une rue en son honneur. Toutes ces infos, là, elles viennent de deux articles de l'Atlas social de la métropole nantaise, écrits par le collectif À Côté. Donc si vous voulez aller voir pour avoir plus de détails, n'hésitez pas. Alors si vraiment... Si la seule solution, c'est de renommer des rues, je dis ça comme si ça ne me plaisait pas, en fait, ça me plairait beaucoup. Si on devait faire ça, quel nom de rue vous aimeriez donner ? Donc des noms de rue avec un nom de femme. Hein.
Bah, j'ai déjà dit Louise Michel, mais je pense qu'il y a déjà une rue qui doit s'appeler comme elle.
Ouais. Ça peut être, vos sœurs, vos mères, Rihanna.
T'as dit quoi sur ma mère ?
Rihanna. Moi, je pense, ouais, à des artistes. Il y a peut-être déjà Camille Claudel ou des choses comme ça. Oui.
Il y a une rue Georges Sand, maintenant que j'y pense.
Ouais, ça, c'est dans le top 3 des rues qui ont un nom féminin en France, avec Jeanne d'Arc.
Moi, je dirais aussi des artistes comme Aretha Franklin ou quoi.
Ok. Il y a des collectifs qui décident, face à l'inaction des gouvernements, des pouvoirs publics, enfin en tout cas leur lenteur, il y a des collectifs qui décident de renommer des rues partout en France avec des noms de femmes, elles prennent des affichettes et de la colle. Donc peut-être qu'un jour on va se réveiller et qu'il y aura 0% de mecs sur les petits panneaux bleus. Un autre grand débat à Nantes, c'est l'influence du colonialisme sur les noms de rues. L'association Diversité a recensé une dizaine d'odonymes qui sont liés à la traite négrière. C'est logique parce qu'à Nantes, beaucoup d'hommes se sont enrichis sur le dos de l'esclavage, ce qui a accentué leur influence dans la ville. Par exemple, le négociant Kervégan, qui a donné son nom à une rue dans le centre, a été maire. Des associations réclament que ces rues soient débaptisées. Par exemple, Alassane Guise, qui est le vice-président de Flamme Africa, dit qu'on ne peut pas continuer à honorer des négriers qui se sont enrichis sur cette exploitation reconnue comme un crime contre l'humanité. Ça paraît logique. Mais visiblement, c'est pas logique pour la ville de Nantes, parce qu'elle refuse. Peut-être qu'elle a peur qu'on efface l'histoire, je ne sais pas. C'est un argument qu'on entend beaucoup, sauf que c'est pas de l'histoire, là, c'est un hommage. Et puis, est-ce que vraiment c'est de l'histoire de lire un petit panneau bleu, de voir le nom de quelqu'un, et se dire « Ah, lui, je le sens, c'était un négrier !» Ça n'arrive jamais. C'est pour ça que les associations demandent aussi des plaques explicatives dans cette rue, à défaut de les renommer. La mairie a là aussi refusé. Elle a mis un seul panneau dans la rue Kervégan, sachant que c'est une rue dans laquelle il y a beaucoup de bars, que ça fait un peu chier tout le monde de lire des panneaux. Je pense que la probabilité que les gens le lisent est de 0,00001%. Alors, comment tout ça va se terminer, je ne sais pas. Est-ce que la mairie de Nantes sera déboulonnée? Mystère. Et puis, on voit aussi beaucoup le passé colonial de la France à Nantes dans le quartier du Hangar à Bananes. Notamment parce qu'il y a pas mal de rues qui ont le nom d'anciennes colonies ou d'actuelles colonies, de Dom-Tom, le quai des Antilles, la rue de Guyane, etc. Alors on va continuer un peu dans l'exotisme, mais de manière un peu plus joyeuse, on va remonter à Nantes-Nord. Je ne sais pas si vous saviez, mais Nantes-Nord, c'est un peu l'Amérique.
Mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai.
Et oui, très étonnant, quand on se balade là-bas, on passe par la rue du Honduras, de l'Équateur, de Bolivie. Donc pensez-y pour vos prochains voyages, il n'y a peut-être pas besoin d'aller très loin. Alors on est resté assez sérieux jusque-là, mais maintenant on va s'amuser un petit peu, avec un jeu. Je vais essayer de vous faire deviner des noms de rues que je trouve mignons ou un peu poétiques, un peu étonnants. Je suis un fruit d'hiver qui a donné son nom à une avenue près du quai de Versailles. Je me découpe en quartiers. Vous pouvez me couper dès que vous avez la réponse.
Orange.
Mon écorce est parfumée. Je ne suis ni une orange ni une clémentine.
Mandarine.
Oui, c'est la rue des mandarines. Alors, on continue. Je suis le nom de guerrier. J'ai donné mon nom à une avenue du nord-est de Nantes. Je me bats surtout avec un sabre. Mais
samouraï.
Oh, l'avenue des samouraïs. Et enfin, je suis une créature magique qui a donné son nom à une avenue encore du nord-est de Nantes. J'ai des ailes et une
fée
baguette.
Licorne. Ah non.
Ouais, l'avenue des fées. Vraiment, le nord-est de Nantes, c'est un peu magique.
Ça fait un sacré effet.
Alors maintenant qu'on a parcouru les rues de Nantes en long, en large et en travers, on va sillonner le reste du monde avec Axel. Je m'emporte un peu, elle va nous expliquer comment on nomme les rues ailleurs qu'en France.
D'ici et d'ailleurs.
L'exemple le plus connu, je pense, de noms de rues qui diffèrent de ce que l'on utilise en France, et en fait plus ou moins un des seuls exemples, c'est le système de numérotation américain. Il n'est pas utilisé partout, hein. Y a plein de villes aux États-Unis qui ont comme nous des noms propres ou les noms de rue, mais en fait principalement sur des villes qui ont un plan en grille, par exemple New York, Chicago, Washington, Seattle. D'ailleurs, ce plan, les villes vraiment en grille comme ça, on appelle ça un type de plan hippodamien, si vous voulez briller avec une anecdote inutile en soirée. Par exemple, si on regarde les rues de Manhattan, Elles sont nommées en fait avenues ou rues suivant leur direction. Les avenues sont verticales, plus larges, les rues horizontales et plus petites. Mais attention, dans un autre quartier de New York, l'orientation de la grille est différente. Alors même si ça va être toujours dans un sens avenue et dans un sens rue, ce sera peut-être pas forcément le même qu'à Manhattan. Après, les avenues sont numérotées de l'est de Manhattan à l'ouest, de 1 à 11. Et après, les rues sont numérotées en partant du sud de l'île, en remontant vers le nord. Ça fait quand même assez large. Donc, pour différencier de quel côté de la rue on parle, il y a l'ajout d'une lettre E pour le côté est et W pour le côté ouest. Donc, par exemple, une rue de Manhattan pourrait s'appeler 3rd Street W. Voilà. Il y a quand même beaucoup de noms hein, de rues qui sont plus traditionnelles, qui existent à New York. Et en fait, ça va être par exemple surtout sur le bout sud de Manhattan, qui est un des plus anciens quartiers de New York, le début de la ville. Et donc, c'est là aussi qu'il y a des villes, certaines des rues les plus connues du monde, par exemple Broadway, Wall Street. Un autre exemple qui diffère un petit peu, c'est Washington. Donc, comme New York, c'est une ville où il y a eu beaucoup de constructions très rapides. C'est pour ça d'ailleurs la raison principale pourquoi on fait un système un peu organisé comme ça et moins organique. À Washington, c'est un système en fait, de lettres utilisées pour les rues qui vont d'est en ouest et pour des chiffres pour les rues du nord au sud. Et le centre, c'est le Capitole. Donc on part du Capitole, ça fait une couronne et on va donc jusqu'au W. Après, à ce moment-là, bah, il fallait trouver quelque chose parce qu'il n'y a plus de lettres. Et donc là, ça va être des noms propres en deux syllabes, dans l'ordre alphabétique officiellement. Mais personnellement, quand je regarde une carte de Washington, l'ordre alphabétique est un peu compliqué. Et après, ça va être trois syllabes. Et puis, on s'éloigne encore du centre. Là, du coup, on va plus arriver en banlieue. Et ça va être des noms propres, plutôt des noms de plantes, d'arbres, des choses plus neutres. En fait, de manière générale, dans le monde, les autonymes fonctionnent de manière assez similaire. On parlait des noms propres qui vont être utilisés et souvent très liés à l'histoire locale, être des figures importantes du pays. En fait, il y a un côté très nationaliste derrière les noms de rue et il y en a généralement très peu qui sont des noms propres qui sont utilisés à plusieurs endroits du monde. Par exemple, les noms de saints, ça, on va les retrouver à peu près dans tous les pays judéo-chrétiens. Mais aussi, il y a quelques stars internationales qui vont se retrouver un peu partout. Par exemple, tu as cité Copernic, mais le top 3, on va dire, ça va être Mozart, qui est le plus utilisé, Kennedy, Martin Luther King. Et généralement, en fait, ça va être des scientifiques, par exemple. Bon, Mozart ou des grands compositeurs, et très peu, en fait, de figures politiques. Donc Kennedy, Martin Luther King, Mandela aussi, c'est vraiment les superstars internationales.
Merci beaucoup, Axel. La rue, elle est à qui ?
Elle est à nous.
La rue, elle est à qui ?
Elle est à nous.
À qui, à qui, à qui ?
À nous, à nous, à nous.
Bon, je pense que j'ai pas besoin de présenter le morceau qu'on va écouter maintenant.
Chauffe, chauffe, chauffe le soleil, souffle un vent de panique.
Gagnons les causes perdues, déployons notre jeunesse. Sa fougue et son chahut, sa rage et sa tendresse.
« nous qui sommes à la rue. C'est la rue qui est à nous. Non, soyez au qui sont la roi. Et la roi qui est dans ça.
Yeah. Abracadabra, le miracle. On va transformer cette salle en grande scène de spectacle. Mesdames et messieurs, on joue pour vous ce soir.
Entrée libre pour tout le monde, chacun aura sa place. Là dans la demi-ronde, sans première ni deuxième classe. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, soyez au piste de la loi, et la loi qui est ça. Les gosses sur les épaules, les filles par la main. On sera triste, on sera drôle, partager notre chemin. Et vive la bohème, et vive les voyages. Leurs réponses, leurs problèmes, peut-être leur dérapage. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, soyez au qui sont la roi, et un roi qui est ça.
Nous couchons si souvent avec la belle étoile. Son amour est vivant, gonfle notre grande voile.
Et grave dans notre voix, l'empreinte d'une goutte de pluie. La chaleur et le froid, l'enfer, le paradis. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, soyez au qui sont la loi.
Langue de prune.
C'était la rue qui est à nous, de la rue qui est à nous, et vous êtes dans Langue de prune sur Prune 92 FM. Alors on a parlé des noms de rues, de quartiers, de pays, de villes. C'est des noms qui portent les traces de l'histoire des peuples qui les ont habités. Une histoire pas toujours paisible. Bien sûr, les noms de lieux sont aussi très influencés par la géographie, la nature. On va s'intéresser un peu aux toponymes qui désignent les éléments naturels. Alors à votre avis, qu'est-ce que c'est un hydronyme ?
C'est un nom de l'eau.
Ouais, c'est ça, c'est le nom d'un cours d'eau. Alors vous connaissez le Sens à Nantes, la rivière. À votre avis, d'où est-ce que ça vient ce nom-là ?
Je sais pas, du suffrage censitaire, peut-être que le fleuve il avait le droit de voter.
Ouais, c'est ce qu'on a fini par penser que ça venait du sens l'impôt. Et en fait, pas du tout. Ça vient du mot Alice, A-L-I-S. Et en fait, ça a donné au sens et le nom de nombreuses rivières en France. Auxances, Auxances, Auxances. Et puis, petit à petit, on a oublié que ça venait de là. Donc, on a commencé à se dire que c'était peut-être en deux mots. Au-sens. Et du coup, on a commencé à changer l'orthographe de sens et à l'écrire C-E-N-S comme l'impôt. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un oronyme ?
Bah, c'est la montagne.
Mais comment tu sais ça ?
Bah,
c'est la racine voilà. Latine.
Oui. Ok, mais je ne savais Je me disais, je voulais les avoir. Ouais, c'est ça, montagne ou colline. Hein. Alors là, je n'ai pas trop trouvé de montagne à Nantes pour le petit jeu. Donc, j'ai été plus loin. J'ai été au pic du Canigou. Parce que mon papa m'en parlait tout le temps quand j'étais petite et je trouvais ça
c'est
très rigolo.
C'est là-bas qu'il y a l'usine pour les boîtes de chiens.
Alors, c'est dans les Pyrénées. Est-ce que vous savez d'où ça vient ?
Bah, l'usine pour les boîtes de chiens, je viens de le dire, faut écouter un peu, non ?
Ah, tu veux dire que ouais, c'est l'usine pour les boîtes de chiens qui a donné son nom à la montagne.
À la montagne, voilà, c'est ouais. Ça, exactement.
Non.
Peut-être qu'elle est à l'intérieur de la montagne, j'en
sais
rien.
C'est quoi, c'est Canigou ?
Ouais, c'est un peu impossible à deviner. Hein.
Ou c'est Canigou, là ?
Ouais, j'aurais fait la même hypothèse.
Bah, en même temps, Canigou, chien, pour... Ah, je sais pas.
C'est une des hypothèses que ça viendrait du latin cani yugum, croc de chien. Mais désolé Morgane, c'est une hypothèse à laquelle peu de gens croient.
Merde.
Il y a aussi une hypothèse à laquelle peu de gens croient, c'est que ce serait par rapport à un certain canico. Mais en fait, l'hypothèse la plus répandue, c'est que ça vient de la racine pré-indo-européenne car ou can, répétée deux fois, can-can. La première fois pour dire sommet rocheux, la deuxième fois pour dire sommet en coin. Donc, c'est pas hyper fun, quoi. En gros, c'est le pic du pic, quoi. Et il y a un petit débat, enfin, des petits efforts actuellement pour qu'on revienne peut-être au nom catalan Canigo. Donc non seulement c'est pas mal parce que c'est en Catalogne, et en plus ça évite de penser à la bouffe pour chien. Alors on va finir sur les phytotoponymes. Qu'est-ce que c'est que les phytotoponymes ?
C'est lié aux plantes.
Ouais, ah oui, oui. C'est lié. Pourquoi tu lui réponds comme ça, Louis ?
Bah non, j'approuve et puis je constate oui.
Ah, je croyais que c'était oubli. Oui, mais c'est évident, Axel. J'étais heurtée, mais il n'y avait pas de quoi. Donc oui, ça a bien rapport avec les plantes. C'est les noms de lieux qui proviennent d'un nom de plante. Donc c'est en fonction des plantes, des végétaux qu'il y avait dans le coin. Dans le département, on a pas mal de communes comme ça qui ont un nom en fonction d'un végétal. Quelles communes vous connaissez qui ont un nom en rapport avec la vigne ?
Avec la vigne ? Aigrefeuille.
Ah non.
Ouais. Saint-Léger, les vignes.
Ah.
Il bah, fallait les connaître. Quoi.
Je vois que vous ne connaissez pas votre département.
Je vois que tu connais super bien tes viticoles. C'est curieux quand même.
Alors là, je pense que vous pouvez plus facilement trouver quelles communes qui sont nommées par rapport au pin. Le pin, l'arbre.
Saint-Brévin-les-Pins.
Ah,
Saint-Brévin-les-Pins.
Ah oui, la Baule-les-Pins. Si, il y a la Baule-les-Pins aussi.
Ah ouais ?
Bah oui.
Non, c'est la Baule-Escoublac.
Et la Baule-les-Pins, il y a les deux.
Ah ouais ?
Oui.
Et y a aussi une commune apparemment qui s'appelle Le Pin, qui est à la frontière avec le Maine-et-Loire. Alors, plus difficile, là, franchement, à partir du mot chêne, il y a plusieurs communes vous n'allez jamais trouver. Ça commence par...
J'adore, ta foi en nous est incroyable.
Non, mais c'est impossible. À moins que vous connaissiez des mots gaulois. Derval. Ça vient du gaulois Dervos pour chêne. Dréféac, qui vient du breton Dref. Et Casson, donc là, rien à voir, parce que là, ça vient du celtique antique pour chêne. Donc, on voit que c'est des noms de communes totalement différents. Tu parlais tout à l'heure d'Aigrefeuille-sur-Maine. Alors, ça n'a pas de rapport avec la vigne, mais tu as raison, ça a bien rapport avec une plante, puisque ça veut Aigrefeuille, ça vient de où ? Il y a Nozay, qui vient de noyer. Et Kili, on ne sait pas trop, mais ça viendrait peut-être de bosquet. Alors, j'aimerais vous féliciter pour... Non, je ne sais pas si je peux vraiment vous féliciter parce que vous n'en avez pas réussi beaucoup. Mais c'est...
Vu le nombre de gentilés que tu as trouvé tout à l'heure, à ta place, je ne comprends pas. Enfin bon, après, je dis ça, je dis rien. Je peux mieux faire.
Bon, en tout cas, je vais remercier nos auditeurs d'avoir accepté de voyager avec nous. On va se retrouver le dernier jour du mois de février, le 28 février. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
À plus dans le bus,
à plus tard dans
à
le car,
à bientôt dans le métro,
à mardi dans le
à
taxi,
plus tard,
très
dans
vite
le car,
dans le cockpit.